Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à nous arrêter un moment pour réfléchir sur la mission qui est la nôtre. Cette mission même que nous avons héritée des apôtres. Vous avez entendu dans l'évangile de Marc, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses disciples, le 12, deux par deux. Il les a envoyés annoncer sa bonne nouvelle à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Il s'agit là d'un appel. Avant qu'il leur ait confié la mission spécifique qui leur a été destinée, il les a appelés chacun par son nom. Cet appel qu'il leur a adressé, que Jésus leur a adressé, c'est un appel qui est toujours d'actualité. Hier, c'était les apôtres qu'il a appelés. Aujourd'hui, c'est chacun et chacune d'entre nous qui nous déclarons comme étant ses disciples. Il nous appelle chacun par son nom, où que nous soyons, dans quelque communauté que ce soit, là où se réunissent les disciples, ceux qui se déclarent disciples du Christ, que ce soit dans une paroisse, dans le cadre d'une église, une grande église comme l'église diocésaine de Sherbrooke, chacun a une mission spécifique. Est-ce que nous y réfléchissons souvent? Dans quelle mesure nous y sommes fidèles? Et nous répondons souvent si généreusement et de gaieté de cœur à cette mission, avec un cœur joyeux. C'est pas si évident dans le contexte d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de dérobades. Le motif ne manque pas pour décliner une telle mission. Le vrai disciple du Christ se reconnaît justement ou précisément par cette disponibilité permanente à contribuer à faire connaître Jésus-Christ autour de lui, en commençant par nos propres familles, par nos propres proches, par nos amis, et peu importe aussi les lieux où nous vivons, dans nos milieux de vie, dans nos milieux professionnels. Ne mettons pas notre foi de côté. Jésus a de la place dans nos engagements. Voyez Amos. Je reviens avec vous sur le premier texte, la première lecture. Amos n'était pas prophète au départ, ni fils de prophète. Ce n'était qu'un bouvier. C'est derrière le troupeau. Il prenait soin de ses commandes. C'est derrière le troupeau que le Seigneur est allé le chercher. Paul, qui deviendra le grand apôtre de l'évangélisation des païens, n'était qu'un persécuteur, un meurtrier des chrétiens. disciple de Christ. Jésus l'a saisi sur la route alors qu'il était sur le point de commettre son forfait. Viens, je vais te montrer ce que tu dois souffrir pour faire connaître mon nom aux païens. Il en a fait l'apôtre le plus courageux, fougueux des païens. Contre même les tenants, les protagonistes de sa culture juive. Et pas au dépens. Et là, il lui a failli renoncer à l'attachement, son attachement à sa propre culture pour suivre Jésus-Christ. Et lui-même, Jésus-Christ, ce sont des paradoxes dans la vie de Jean. Quand Dieu vous saisit, veut vous appeler, peu importe ce que vous êtes, il utilise toutes les voies, que vous les veuillez ou non, pourvu que son plan de salut puisse se réaliser avec vous, parce qu'il le veut, non pas parce que vous êtes les meilleurs, mais parce qu'il vous aime, il vous a appelé à cette mission, il vous confie une mission à accomplir. Jésus-Christ, fils de charpentier. D'où lui vient cette sagesse? Il n'est qu'un fils de charpentier. C'est le raisonnement des hommes de chez lui, des siens. Mais pourtant, c'est celui-là, l'architecte du salut, l'architecte pour la réalisation du plan du salut, le salut de l'humanité, celui qui va se donner totalement jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à sacrifier sa vie pour que l'humanité trouve son salut, soit sauvée, restaurée dans sa dignité d'enfant de Dieu. Aujourd'hui, il appelle ses 12 apôtres, en commençant par les plus vieux, les plus anciens. Pierre, quel âge avait-il? Il était le plus âgé de tous les 12. Il était pécheur. Pécheur. Un homme aussi qui n'avait pas tellement un tempérament, peut-être pas le tempérament, le meilleur tempérament de tous les 12. C'était un homme impulsif, très impulsif. Ses réactions à la porte-pièce. Celui-là même qui va renier Jésus-Christ, son maître. Donc, avec une foi chancelante, Jésus a posé son regard d'amour sur lui. Il va lui confier la responsabilité de toute l'Église. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces personnes-là, ces différentes personnalités? Le bâton. Le bâton, c'est l'image forte qui est choisi aujourd'hui par Jésus. Le bâton de ce berger qui est toujours derrière ses brebis. Le bâton de cet apôtre, de ses disciples du Christ, qui a la conscience, la pleine conscience d'être toujours en route. En route vers qui? Vers les brebis perdus. Le bâton. Le bâton tenu par quelqu'un qui est toujours en marche. Vous savez, lorsqu'on se déclare chrétien, disciple de Christ, on doit toujours tenir son bâton. C'est-à-dire être disposé à se mettre régulièrement en route être toujours en route comme Jésus-Christ. Jésus-Christ ne s'est pas préoccupé de construire des bâtiments d'abord. Est-ce qu'on rapporte ça? Il utilisait le moyen qu'il trouvait. Pour atteindre les gens, il entrait dans les synagogues. Il n'a pas construit de paroisses. Il n'a pas construit des églises, de bâtiments de baptistes. Et peut-être c'est là aussi qu'on peut se poser la question si pendant des siècles, l'Église ne s'est pas préoccupée pour des structures, s'équiper en grosses structures pour faire connaître Jésus-Christ, mais des grosses structures qui sont aujourd'hui en crise. Est-ce que Jésus les a désertés? Non. Je suis toujours au milieu de nous lorsque nous nous rassemblons dans une église comme celle-ci. Mais ça ne suffit pas que ceux qui s'y rassemblent, s'ils n'ont pas été suffisamment préparés pour comprendre que Jésus, qui nous envoie en mission, il nous envoie d'abord en mission vers les gens, pour vivre avec eux, pour partager leurs préoccupations, leurs besoins, pour les aider à se rapprocher de Dieu, nous faisons fausse route. Et lorsque les structures cessent d'être fonctionnelles, nous sommes perturbés. Le doute entre en nous, sauf chez ceux qui ont vraiment mise à profit de l'enseignement de l'Église, de la parole de Dieu, pour développer une foi profonde, une spiritualité qui les rattache à Dieu et qui les rapproche de Jésus-Christ. Être toujours une Église en route, c'est une des voies, une des pistes de survie de nos communautés chrétiennes aujourd'hui. Quand bien même nous sommes encore attachés à nos paroisses, ce n'est plus un problème du grand nombre. Le grand nombre, ça appartenait peut-être aux siècles, aux époques passées. Mais aujourd'hui, avec ce petit nombre de restes, qui restent encore fidèles à la foi de Jésus-Christ, mais lorsqu'ils sont accrochés à Jésus, et lorsqu'ils sont fidèles à la mission qu'il nous a confiée, faire connaître son nom, devenir le témoin de la justice, le témoin de la paix, c'est dans le psaume, ce qui est central dans le psaume d'aujourd'hui. S'ils sont déterminés à faire voir l'amour de Dieu, où qu'ils soient, même entre eux, Jésus-Christ est au milieu d'eux. Et c'est ça le plus important. C'est la mission qu'il nous a laissée. Cette mission est encore d'actualité. Aujourd'hui encore, dans le contexte de notre société, où les gens se replient de plus en plus sur eux-mêmes, sur leur confort, parce qu'ils sont trop à l'aise. Chez eux, ils n'ont plus besoin de se référer à Dieu. Ils n'ont plus besoin d'une communauté d'église, communauté de chrétiennes, mais une communauté où les gens sont conscients de témoigner de la fraternité, de l'amour fraternel de Jésus-Christ. C'est à cela que nous devons tendre. Et où les gens prient, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui les ont précédés, les membres de leur famille, même s'ils sont partis, mais ils continuent à prier pour eux. Et merci pour tous ceux et ceux qui sont venus, qui se sont joints à nous aujourd'hui pour prier pour leurs plus proches qui les ont quittés. Amen.